Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le Liban et sa reconstruction, première démission au sein du gouvernement au lendemain d'une houle de colère. L'Afghanistan et la libération de 400 détenus talibans, dernier obstacle à l'ouverture de pourparlers de paix. La visite à Taïwan d'une délégation américaine, une première depuis 1979. Et enfin, le portrait d'Alexandre Loukachenko, prêt à tout pour rester à la tête de la Biélorussie à la faveur d'un sixième mandat. Les bureaux de vote ferment ce soir à Minsk. En milieu de matinée, le patriarche de l'église chrétienne maronite du Liban, Béchara Boutros Al-Rahi, a appelé le gouvernement à démissionner s'il est incapable de réformer sa manière de gouverner. La ministre de l'Information, Manal Abdel-Samad, est la première à mettre fin à ses fonctions, non sans présenter ses excuses au peuple libanais. En ligne de Beyrouth, l'un de nos envoyés spéciaux, Nathanaël Charbonnier. Bonjour Nathanaël.
Bonjour, bonjour à tous.
À quoi ressemble, Nathanaël, le jour d'après à Beyrouth ?
Écoutez, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé en l'espace de quelques heures. Vous savez, ça fait 4 jours maintenant que je me promène dans le centre de Beyrouth et que je vois tous ces jeunes nettoyer avec leurs balais et leurs pelles, retirer les gravats, retirer les morceaux de verre. Or, ce matin, les rues sont, on va pas dire propres, mais véritablement, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu voir depuis maintenant 4 jours. Mais, parallèlement, là où hier, il y a eu des manifestations qui était un endroit assez préservé, notamment autour du Parlement, où les rues étaient tout à fait propres quand je suis arrivé il y a 4 jours. Eh bien, ce matin, c'est un théâtre de désolation, avec les gaz lacrymogènes qui ont été jetés pendant toute la journée d'hier après-midi, avec les pierres qui sont encore sur le sol. On sent qu'il s'est passé quelque chose, et le drame, entre guillemets, a changé de lieu dans la ville, alors que ce n'est pas du tout, évidemment, la même histoire qui a été racontée entre celle de l'explosion dramatique et celle des manifestations hier, qui ont fait quand même de nombreuses blessés et un mort, un policier.
D'un mot, Nathanaël, dans un peu plus d'une heure, ouverture d'une vidéoconférence des donateurs impulsée par les Nations Unies et coprésidée par la France. Comment cette réunion est-elle perçue ?
Écoutez, on n'entend pas grand-chose dans l'immédiat. La question que tout le monde se pose ici, c'est très bien, merci pour l'argent, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Où cet argent va-t-il aller ? Et si c'est pour aller dans les poches des politiques dont on ne veut plus, ce n'est pas la peine.
Bien, merci à vous Nathanaël Charbonnier et Stéphane Beaufils, en direct de Beyrouth. À ce même chapitre de la reconstruction, la diaspora libanaise s'est mobilisée sans tarder. Annabelle Grenier.
C'est sans doute l'une des plus dynamiques diasporas du monde, une des plus anciennes aussi. Les premières vagues d'immigration libanaise remontent à la seconde moitié du 19e siècle. Des marchands ambulants, des paysans pauvres, majoritairement maronites chrétiens, partis tenter leur chance aux États-Unis et en Amérique latine. C'est d'ailleurs au Brésil que 7 millions de Libanais et descendants de Libanais se sont majoritairement installés. 2 millions aux États-Unis, 1 million en Argentine. Entre les deux guerres mondiales, ce sont les chiites qui mettent le cap sur l'Afrique de l'Ouest, aidés par la France qui saura voir dans ses habiles négociants des intermédiaires pour servir leurs intérêts au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Poussés par les difficultés économiques dans le pays et 15 années de guerre de 1975 à 90, d'autres vagues d'émigration vont se succéder vers les pays pétroliers du Golfe et en Europe. Selon des estimations officielles, près de 13 millions de personnes d'origine libanaise résident dans 70 pays du monde, c'est 3 fois plus que le nombre de Libanais habitant au Liban. Qualifiée et polyglotte, elle compte nombre de banquiers et chefs d'entreprise audacieux, d'universitaires émérites ou d'artistes talentueux qui savent se mobiliser. Dans une étude récente, le FMI estimait que 40% des Libanais qui ont émigré il y a plus de 30 ans continuent d'envoyer de l'argent au pays. On estime que les transferts de la diaspora ont avoisiné les 8 milliards de dollars en 2017, soit 17% du PIB. Déjà très active avant la catastrophe, la diaspora libanaise a tout de suite réagi pour venir en aide à la population. Des levées de fonds ou encore une multitude de cagnottes en ligne ont été lancées cette semaine en quelques heures.
Annabelle Grelier, les rentes de l'or noir s'effondrent en Arabie Saoudite, moins 73% pour le bénéfice net au deuxième trimestre 2020 par rapport à l'année précédente en raison d'une considérable baisse des prix et de la pandémie. Dernier cadenas avant d'ouvrir des pourparlers pour la paix, mais à quel prix ? Ce ne sont pas les premiers prisonniers talibans libérés, loin de là, mais ce qui a conduit dans les geôles les 400 détenus au cœur des dernières discussions a longtemps posé problème. Ce matin, Nathalie Hernandez, une loya jirga, a approuvé leur libération.
Trois jours ont été nécessaires aux milliers de dignitaires afghans de la Grande Assemblée, la Jirga, pour se mettre d'accord et approuver la libération de ces 400 prisonniers. Une libération que réclamaient les talibans pour ouvrir des pourparlers de paix avec les autorités du pays. Jusqu'à présent, Kaboul, qui a déjà fait sortir 5000 détenus, s'y opposait. D'ici à 48 heures, une fois le décret signé, des négociations pourraient donc s'ouvrir pour instaurer enfin une trêve sérieuse et durable dans le pays, comme l'a exprimé le chef d'État afghan. Les États-Unis, via la voix de leur secrétaire d'État Mike Pompeo, exhortaient les dignitaires à passer à l'acte. Pour Washington, qui a promis une aide aux Afghans, cela doit permettre de réduire les violences et de parvenir à la fin de la guerre, même s'il s'agit, je cite, d'une libération impopulaire. En effet, parmi ces prisonniers se trouve un groupe de 44 captifs dits indésirables, parmi eux un ancien soldat afghan qui avait tué 5 militaires français en 2012, ainsi que deux condamnés pour l'assassinat en 2003 de Bettina Gualard, employée française du Haut Commissariat onusien aux réfugiés. Sa famille a aussitôt jugé inconcevable la libération de ces deux hommes.
Nathalie Hernandez, la question de Taïwan est assurément l'une des plus sensibles pour le Parti communiste chinois. Pékin, en effet, considère Taïwan comme une de ses provinces. Alors, en plein bras de fer avec Washington, la visite d'une délégation américaine ce dimanche est de nature, Nabila Hamel, à souffler sur les braises.
Une menace pour la paix et la stabilité, c'est ainsi que Pékin qualifie cette visite d'Alex Azar. C'est le responsable américain de plus haut rang à se rendre à Taïwan depuis 1979, année où les États-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Taipei pour reconnaître le gouvernement de Pékin comme le seul représentant de la Chine. Il y a eu d'autres déplacements, notamment de responsables américains du commerce ou de l'environnement, mais pas à ce niveau-là. À ce rang, du moins. Et aujourd'hui, le contexte est plus tendu, même si les relations sino-américaines restent malgré tout empreintes d'ambiguïté, un peu comme s'il s'agissait de titiller Pékin sans tout de même dépasser ce qui pourrait constituer une ligne rouge. Officiellement, par exemple, Washington, qui fait face à une pandémie de coronavirus particulièrement meurtrière aux États-Unis, présente la visite de son ministre de la Santé à Taïwan comme une reconnaissance des réussites de l'île dans la lutte contre la Covid-19. Taipei a comptabilisé 500 cas de Covid et seulement 7 décès. Donc, a priori, une visite presque technique destinée à comprendre l'expérience taïwanaise en la matière. Mais le responsable américain, Alex Azar, doit aussi rencontrer la présidente de l'île, farouchement hostile à Pékin. C'est ce qui a certainement fait réagir les dirigeants chinois. Donald Trump est le premier président américain à s'être le plus rapproché de Taïwan, à s'être entretenu aussi avec la présidente. Il a multiplié les ventes de matériel militaire sophistiqué à l'île. Mais pour l'expert des relations sino-américaines Douglas Pal, Washington s'est abstenu jusque-là d'envoyer sur place des responsables militaires, par exemple.
Merci à vous, Nabil Hamel. Sans surprise, le président Bélarusse, en ce jour de présidentiel, affiche la fermeté dont il fait montre en vitesse de croisière et déclare « Personne n'autorisera une perte de contrôle ». Alexandre Loukachenko, qui fait face à l'opposition, incarnée par Svetlana Tikhanouskaya, portrait d'un président sortant avec à Moscou Claude Brouillot.
Loukachenko n'a pas hésité à dire cette semaine que de toutes les façons, je cite, « il ne donnerait pas le pays », sous-entendu ni à ses opposants arrêtés régulièrement, ni au Kremlin à qui il refuse obstinément l'intensification du processus d'intégration, estimant que la Biélorussie est déjà bien trop dépendante de la Russie sur le plan économique, énergétique, en un mot stratégique. L'homme fort de Minsk a décidé de jouer son jeu favori, celui de l'ouverture vers l'Ouest, mais sans jamais donner de véritables perspectives, au point qu'il a réussi à mécontenter tout le monde, à commencer par les Biélorusses eux-mêmes, qui lui font savoir régulièrement depuis quelques semaines dans les rues. Mais il semble aujourd'hui qu'ils aient moins peur que par le passé de la répression, poussée notamment par leur mécontentement qui a grandi ce printemps, quand les gens ont compris que Loukachenko, qui personnifiait jusque-là l'État protecteur, a nié grossièrement les risques de la pandémie de Covid-19 en les mettant directement en danger. Si l'on rajoute à cela un pays qui fait face à la crise économique, et surtout, élément totalement nouveau, une opposition réellement incarnée cette fois en la personne de Svetlana Tikhanouskaya, qui se définit avant tout comme une femme du peuple, sans autre ambition que de mettre la Biélorussie sur le chemin de la démocratie, on obtient alors aujourd'hui un Loukachenko dos au mur, ce qui le rend d'autant plus imprévisible est prêt à tout, semble-t-il, pour rester en place.
Vive émotion en Nouvelle-Calédonie après l'incendie de la grande case du Sénat coutumier. L'institution consultative abrite 16 sénateurs kanaks représentant les 8 aires coutumières de l'archipel. Les élus appellent au calme. Un homme a été interpellé. La météo de la métropole en quelques mots. La canicule, 15 départements en alerte rouge. Alerte orange pour 49 départements allant du sud-ouest au nord et au nord-est. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili. À la technique, Jean-Guy Limège.